Alphonse Karr, Bourdonnement, 1880. J'avais dans le temps constaté l'extrême différence qui existait chez les femmes entre la pudeur d'eau douce et la pudeur d'eau salée, du temps que je vivais à Paris, à Étretat et à Sainte-Adresse. À Paris, les bains de femmes dans la meilleure rivière étaient scrupuleusement entourés de planches et couverts au-dessus pour que les anges eux-mêmes ne pussent jeter sur les baigneuses un regard indiscret. Si des nageurs en pleine eau s'approchaient de ces forteresses hermétiquement fermées, des employés des bains les injuriaient et des gendarmes qui se promenaient en bateau sur la Seine faisaient quelques menaces et quelquefois arrêtaient les délinquants. À la mer, au contraire, les femmes se baignaient presque pêle-mêle avec des hommes vêtus d'un simple caleçon et se faisaient porter à la mer par des baigneurs payés. Une corde marquait seule une séparation entre les deux sexes. La décence consistait pour elle à être assez laide. Elle était en effet dans des sacs de laine avec des bonnets de toile cirés sur la tête. Peut-être est-ce le genre de dément sens qui protège le plus efficacement la vertu. Cependant, les hommes bien élevés se baignaient d'eux-mêmes à une certaine distance des femmes, distance que les femmes pouvaient augmenter à leur gré. D'ailleurs, les femmes restaient au bord et les hommes, presque tous, nageaient plus ou moins au large. Seulement, comme il arrivait qu'un mari inquiet désirât rester près de sa femme, qu'un père voulût enseigner à nager à sa fille, ou surveiller ses premiers essais, on imagina de tendre deux cordes au lieu d'une. Ces deux cordes formaient trois compartiments sur la plage. À l'extrême gauche, les femmes, à l'extrême droite, les hommes, et au milieu, les hommes et les femmes, femmes et maris, pères et filles, etc., qui voulaient se baigner ensemble. Cela parut suffisant pendant de longues années. D'un côté, la laideur du costume des femmes, leur pâleur allant quelquefois jusqu'au vert, de l'autre, les hommes, d'autant plus laids au contraire pour la plupart, qu'ils étaient moins vêtus, tout semblait préserver les deux sexes de pensées dangereuses. Aujourd'hui, je vois par les journaux de mode que tout cela est changé. Les femmes se sont enfin demandé pourquoi, elles qui se montrent si volontiers à demi-nues dans les salons où les hommes sont astreints à la cravate et à la décence la plus rigoureuse, se laisseraient plus longtemps empaqueter dans des sacs disgracieux. Elles qui ont tant de si jolies choses à laisser voir, tandis que les hommes faisaient une assez laide exhibition de leur personne, elles décidèrent qu'il fallait rappeler les hommes à une décence qui est un devoir pour des êtres si disgraciés et reprendre pour elles-mêmes le privilège de se montrer généreuses. On décida alors, pour commencer, que les hommes ne se baigneraient plus que vêtus. La plupart s'y soumirent, à l'exception de quelques nageurs enthousiastes qui avaient besoin de l'entière liberté de leurs mouvements et aimaient mieux se livrer à leur exercice favori que de poser sur la plage avec de l'eau jusqu'à la ceinture. Il est une raison de cette résignation au costume de la part de la plupart des baigneurs, et je le dirai à quelques lignes d'ici. Cette gêne imposée aux hommes satisfaisait les scrupules des femmes. Elles avaient assez accordé à la pudeur en la faisant porter aux hommes, comme elles leur font porter leur ombrelle et leur éventail. Elles déclarèrent qu'elles pouvaient porter de moins en fait de costumes, ce qu'elles obligeaient les hommes à porter de plus, ça employait autant d'étoffes et ça revenait à la même superficie de peau humaine voilée. Elles adoptèrent alors ces costumes que je vois figurer dans les journaux de mode, costumes qui, au lieu d'en les dire, rendent jolis, parce qu'ils permettent certains artifices, certaines exagérations, certains mensonges, costumes qui donnent enfin l'occasion de se décolleter à la fois par en haut, comme les femmes du monde, et par en bas, comme les danseuses. Disons maintenant la cause principale de la résignation de la plupart des hommes au costume et à la pudeur méticuleuse qui leur était imposée. La vie sociale, la vie des cités, la vie du monde n'est pas aussi défavorable, il s'en faut, à la race féminine qu'à la race masculine. Les femmes vivant dans les villes y acquièrent une apparence plus délicate. L'étiolement leur donne cette sorte d'élégance et de grâce morbide, genre de beauté littéraire très étroit à la mode vers 1830, époque du règne de la femme maigre, frêle, éthérée, immatérielle et un peu verte. Les femmes vivant dans les villes y deviennent, pour ainsi dire, plus femmes au gré de certaines idées de gens qui ne s'y connaissent pas. Les hommes, au contraire, y deviennent moins hommes. Les muscles s'atrophient, les bras sont débiles, les jambes sont grêles. Rien ne grossit que le ventre. La décence, la pudeur qu'on leur imposait, était pour leur vanité une circonstance des plus heureuses, en leur ordonnant de cacher leur laideur. Ajoutons que pour cette même classe de gens, beaucoup plus nombreuses qu'on ne croit, qui n'entendent rien à la beauté des femmes, tout ce qu'une femme montre des choses qu'on est convenu de ne pas montrer, passe pour beauté, appât, attrait et charme. Et notez que les femmes ne sont pas toutes très éloignées de cette opinion, et beaucoup croient se préparer un triomphe et accorder une faveur en laissant voir n'importe quoi de leur aimable personne, fût-ce très incorrect et très laid. Quelqu'un de bête m'écrit « Mais non, non, c'est peut-être quelqu'un de triste, prenant un ton plus sérieux. » On m'écrit qu'un écrivain, usurpant mon nom, frappe à terre des femmes, des enfants et des hommes vaincus et désarmés. Tout porte à croire que cette façon de s'énoncer est un euphémisme, et que c'est à moi que s'adresse le reproche. Autrement, on m'eût envoyé les chapitres ou articles faussement signés de mon nom, et on m'eût demandé si je m'en reconnaissais l'auteur, à quoi j'eusse répondu oui ou non. On ajoute quelques injures, puis des menaces. La missive n'est pas signée, ou du moins elle est signée le frère d'un transporté. S'il est quelquefois qu'il soit absurde et injuste d'adresser un pareil reproche, c'est certainement moi. Il n'y a pas 8 jours que je me déclarais partisan de l'amnistie pour les entraînés repentants, et que je demandais pardon pour eux et pour leur famille, non plus la transportation mais la colonisation, qui leur permit de faire peau neuve, de commencer une autre vie en rompant avec de mauvais antécédents et des entraînements dangereux et des engagements criminels. Je suis donc loin de frapper des femmes et des enfants, puisque je cherche et je propose un moyen de leur amener un père, non plus pilier de cabaret et de club, et en sa qualité de travailleur, abandonnant le métier qui est le patrimoine et le pain de sa famille, un père toujours sur le point de se faire tuer et de retourner en prison, mais au contraire, un père rendu à ses devoirs, à une vie laborieuse, à sa famille et à ses enfants, aimé et respecté par eux et par tout le monde. Quant au mot de « vaincu », je n'accorde pas cet adjectif honorable aux hommes de la commune. C'est en se battant contre les Prussiens qu'on avait la chance d'être vainqueur ou vaincu. Mais en se battant contre les lois de son pays, en fusillant les otages, en incendiant les monuments, on n'est pas vaincu, on est repris de justice et puni. Relativement aux injures, elles sont bêtes, grossières, je ne m'en sens nullement blessé. Des injures non signées ne peuvent s'élever à l'état d'insulte. Pour moi, qui depuis que j'écris, n'ai pas tracé une ligne sans la signer, comme il est honnête et loyal de le faire, j'ai le droit de tenir en dédain complet des anonymes, pseudonymes, etc. Je ferai remarquer en passant qu'on ne signe pas au journal de Maître Gambetta. Je ferai remarquer également qu'en République, il faudrait obéir aux lois, les respecter, les faire respecter, car il y a une loi non abrogée qui déclare la signature obligatoire. Il y a une loi intérieure dont je ne parle pas, qui prescrit d'assumer en signant la responsabilité de ses écrits. C'est la loi de l'honneur, la loi de la dignité, la loi de la probité. Passons donc sur les injures. Quant aux menaces, je demeure à Saint-Raphaël, dans le Var, maison close. En sortant de la gare, on gagne le bord de la mer, puis on suit la mer par un chemin bordé de myrtes, en laissant la mer à droite, jusqu'à ce qu'on trouve une vieille maison assez pauvre et heureuse, maison basse, à peu près couverte et cachée par les chèvrefeuilles, les passifleurs et les jasmins. Devant la porte est un canot blanc, la Girelle. Il n'y a pas moyen de se tromper. On m'y trouve presque toujours. En me prévenant, on peut être sûr de me rencontrer. C'est l'affaire d'un quart d'heure. Monsieur X est un bohème importun, ennuyeux, quémandeur, opiniâtre, un de ceux qu'il appelle ses amis et qu'il persécute de ses visites intéressées, a recommandé à plusieurs reprises à son secrétaire de ne plus le laisser parvenir jusqu'à lui. L'autre jour, il trompe toutes les consignes. X, sa victime, ayant réussi à le congédier, le reconduit pour être sûr qu'il s'en va et dit à son secrétaire « Comment m'avez-vous exposé encore à une visite de cet homme ?»« Monsieur, je vous en ai sauvé 10 fois, mais il ne se décourage pas. On le renvoie par la porte, il rentre par la fenêtre. » « Eh bien, puisque ça ne réussit pas, il faut vous y prendre autrement et faire le contraire. La première fois qu'il viendra, jetez-le par la fenêtre. Nous verrons s'il rentre par la porte. » Il est horriblement triste et désolant d'être auprès du petit lit d'un enfant malade, d'avoir dans la main une potion qui doit le sauver, et de voir l'enfant, par ignorance, refuser de boire la potion en serrant les dents convulsivement. Il est effrayant de voir un homme en état de somnambulisme marcher dans la direction d'une fenêtre qu'il prend pour une porte. Il est irritant, après l'avoir secoué pour le réveiller, de le voir, les yeux ouverts, vous soutenir que cette fenêtre est en réalité une porte, que c'est par là qu'il veut sortir et descendre, et que vous lui ferez plaisir de le laisser tranquille, puis se débarrasser de vous et se remettre en marche vers cette fenêtre. Vous savez qu'il ne va pas descendre, mais se précipiter. C'est ce chagrin, c'est cette irritation que j'éprouve lorsque, vivant dans la retraite, étudiant, méditant, cherchant sans cesse, demandant à la sagesse des anciens assidûment feuilletés, Nocturna versate manu, versate diurna, et à ma propre expérience, quelques remèdes pour la maladie régnante, c'est la conviction que j'ai trouvé ce remède. Lorsque, ayant visité la maison par le dedans et par le dehors, muni de cette lampe qui s'allume, hélas, bien tard, la sagesse de l'expérience, je dis avec certitude, ça, c'est une fenêtre par laquelle vous tomberez broyé sur le pavé. Ici, c'est un escalier, puis une porte par laquelle vous sortirez sans danger de la vieille maison. Et lorsque je le dis en vain, par exemple, tout le monde est d'accord que la dissolution de l'Assemblée des représentants est imminente et qu'on ne tardera probablement guère à faire de nouvelles élections. Personne n'ignore les résultats jusqu'ici de ce mensonge imbécile et mortel du suffrage dit universel. Il a approuvé le crime du 2 décembre. Il a approuvé et appuyé toutes les folies de l'Empire jusqu'à la guerre déclarée à la Prusse. Crime et folie à la fois. Plus tard, il a envoyé à l'Assemblée, et de là dans les places, un tas d'avocats sans études, sans talent, sans conviction, sans patriotisme. Plus tard, il a fait nommer M. Baronnet à Paris et M. Ranc à Lyon. Les 500 000 habitants de Lyon ne connaissent pas plus M. Ranc que les 2 millions d'habitants de Paris ne connaissaient M. Baronnet. Élection qui pouvait avoir un bon côté, c'est de mettre en pleine lumière le mensonge du suffrage dit universel par lequel les 2 millions d'habitants de Paris et les 500 000 habitants de Lyon ne font qu'obéir à 2 ou 3 douzaines d'intrigants, d'ambitieux, d'avides qui en réalité votent seuls et font voter les autres à leur fantaisie. C'est-à-dire que le suffrage censitaire, si justement détruit, était 1000 fois plus près du vrai, véritable suffrage universel que ne l'est le mensonge qui usurpe son nom aujourd'hui. C'est-à-dire que jamais un pays n'a si bêtement et si pompeusement fait l'abandon de sa volonté et de sa dignité et le sacrifice de ses plus chers intérêts. Eh bien, c'est sous l'empire de ce mensonge dangereux, peut-être mortel, de ce mode de vocation auquel vous devez déjà tant de misère et de honte, que vous voyez tout le monde résolu à affronter de nouvelles élections. Ceux qui soupçonnent ces dangers se contentent de se préparer à éluder, à influencer, à chicaner, à tricher. Mais, ô aveugles volontaires, ô sourds opiniâtres, ouvrez donc enfin les yeux et les oreilles, regardez et écoutez. Savez-vous ce que de nouvelles élections, faites demain, dans des conditions de suffrage prétendues universelles, vous donneront probablement? L'Empire, l'Empire de Strasbourg et de Boulogne, l'Empire du 2 décembre, l'Empire de la guerre du Mexique, l'Empire de la guerre de Prusse, l'Empire de Metz et de Sedan. Oui, ou la Commune, une prétendue république dans laquelle Piat, Vermeersch, Cluseret, Pascal Grousset ne tarderont pas à être débordés et dépassés. Une nouvelle terreur pendant laquelle ceux qui croient follement en conduire recommandée aujourd'hui, messieurs Thiers, Perrier, Dufort, ne gagneront que de se faire partie que de la seconde fournée d'otages. Messieurs Naquet, Arago, Blanc, Hugo, Gambetta, étant réservé pour la troisième. Et dans l'une et l'autre des deux chances, l'Empire, si c'est lui qui l'emporte, ayant pour successeur la Commune, et la Commune amenant nécessairement une dictature militaire, car dans l'un et l'autre cas, il ne s'agit pas de savoir si nous aurons l'un ou l'autre, mais de savoir lequel des deux passera le premier. Deux points principaux, deux points nécessaires, indispensables, d'une réforme électorale. Premièrement, le domicile réel des candidats, sinon dans l'arrondissement, du moins dans le département où ils se présentent. Deuxièmement, le renouvellement de l'Assemblée par fraction. J'ai plus d'une fois développé les raisons irréfutées, parce qu'elles sont irréfutables, de ces deux conditions. Pour la première, vous échappez à la direction despotique de deux ou trois coteries qui exercent la plus odieuse, la plus absurde et la plus dangereuse des tyrannies. Et vous arrivez enfin à ce raisonnement simple et sans réplique. Pour un représentant, il faut deux choses. Premièrement, que les électeurs qui le choisissent le connaissent. Et deuxièmement, que le représentant connaisse le pays, les gens et les intérêts qu'il doit représenter. Pour la seconde, vous évitez les courants, les torrents, les incendies, les fièvres, les accès de folie. Ajoutez un troisième point, l'Assemblée permanente. Plus de vacances, plus de prorogations et des congés individuels motivés. Peut-être ces congés pourraient être plus nombreux et plus longs, si par exemple, en même temps qu'un membre de la droite demande un congé, il s'arrange pour qu'un membre de la gauche et deux membres des centres en demandent en même temps. Il va sans dire qu'on surveillera à l'insolente et déshonnête bêtise de voter pour les absents. Encore une autre pierre fondamentale de l'édifice dont je me suis souvent occupé, surtout depuis 3 ans, c'est-à-dire depuis qu'il y a assez de ruines et de démolitions, pour qu'on puisse sans scrupule proposer d'édifier quelque chose. L'impôt. L'impôt, c'est-à-dire la contribution de tous les membres de la nation aux dépenses publiques, malgré les critiques, les promesses, etc., a toujours été en augmentant dans une proportion presque fantastique. Je me souviens encore du temps où, dans ma petite jeunesse, le mot de milliard était pour les Français un mot vague, indéterminé, comme le sexquenta des latins, voulant dire beaucoup, un monceau, un tas, trop. Et quand on enseignait l'arithmétique dans les écoles, on nous faisait épeler une fois une longue rangée de chiffres, dont le dernier, en comptant de droite à gauche, s'appelait milliard, et de préférence un billion. C'était tout ce qu'on nous en disait, et il n'en était plus question. Au commencement de la Restauration, il y eut une terrible explosion à cause du milliard de l'indemnité des émigrés, et le mot devint à la mode. Dans les assemblées, les orateurs de l'opposition, constatant l'accroissement des budgets, disaient « Nous arrivons à un budget d'un milliard ». Ça passait pour une hyperbole et les gens calmes, sensés, levaient les épaules. Aujourd'hui, nous voyons le budget pour 1874 être de 2 533 262 199 francs. Ou d'après un autre tableau, 2 532 689 922. Donc il faut déduire, disons-le ici pour mémoire, nous y reviendrons, pour frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus publics, non pas 150 ou 200 millions, comme je le disais il y a quelque temps, par peur d'exagérer, mais 246 388 442 francs. C'est lourd, si l'on se rappelle surtout, que sous Louis XIV, le plus fastueux des monarques, le plus cueilleur de lauriers et de myrtes, et cueillant les lauriers et les myrtes avec toutes les aises du luxe et une insigne prodigalité, les revenus de l'État, qu'on appelait alors les revenus du roi, montaient à 117 millions de francs. Il est vrai que l'on dépensait en moyenne 330 millions et qu'il faut à peu près doubler la somme si on a égard à la différence de la valeur de l'argent. Mais ce n'est pas la grosseur, ce n'est pas la pesanteur du budget qui sont le sujet de mon entretien d'aujourd'hui avec mes lecteurs. Je ne suis pas d'ailleurs assez grand financier pour me risquer trop au large dans les chiffres. Je vais donc raisonner en chiffres ronds, en chiffres du moins très arrondis, pour conformer la besogne à mes aptitudes médiocres aussi, parce que cela suffit pour démontrer ce que je veux démontrer. Je suppose donc un budget de 3 milliards. 3 milliards à demander à la France, c'est-à-dire, pour compter également en chiffres ronds, à 30 millions de contribuables. Ce serait 100 francs, si je ne me trompe, que chaque individu aurait à donner. Eh bien, il n'y a pas besoin d'être un profond mathématicien pour décider qu'il n'est pas un Français qui ne donne plus de 100 francs par an à l'État, si on compte que chaque bouchée qu'on mange paye un impôt. Chaque condiment qui assaisonne cette bouchée paye un impôt, et de même chaque gorgée qu'on boit, vin, liqueur, café, thé, etc. Chaque pièce de vêtement, plusieurs impôts, comme matière première, patente, l'étoffe, le fil, les aiguilles, etc. De même, la lumière, huile, bougie, allumette. De même, chaque lettre qu'on écrit, le papier, la plume, etc. On paye pour chaque pipe, cigare ou cigarette. On paye chaque fois qu'on éternue, le tabac en poudre imposé comme le tabac fumé. On paye quand on dort, on paye quand on meurt. Je ne parle là que des impôts indirects. Il y a encore les impôts directs. Si bien que chaque personne ne fait pas un mouvement, ne prend pas un plaisir, ne satisfait pas un besoin, ne fait pas une action quelconque pour laquelle il ne faille payer, si bien que la vie de l'homme aujourd'hui semble avoir pour but de faire de l'argent pour l'État, comme un cheval ou un mulet attelé à une noyère, à un manège, et tournant en rond, monte sans cesse de l'eau pour son maître. Notez bien que je ne blâme pas, je constate. Loin de moi la pensée ridicule et injuste de m'élever contre la contribution légitime que tout citoyen doit aux besoins communs. D'ailleurs, personne ne pourrait séparément pour une somme décuple de celle qu'il donne pour sa part à l'État, se procurer les avantages, les commodités, la protection qu'il en reçoit. Non, je ne blâme que la base et le mode de perception. Et ce n'est pas là d'ailleurs le sujet de mon calcul. Je veux simplement établir qu'il n'est personne qui ne donne plus et beaucoup plus de 100 francs par an en réunissant les contributions directes et les contributions indirectes. Additionnez les dépenses misérables et indispensables du plus pauvre et vous verrez si, tout compris, le fisc ne prélève pas sur lui sous diverses dénominations, plus de 30 centimes par jour. Or, si le plus pauvre paye sa part égale des 3 milliards, il faut reconnaître que celui qui est un peu moins pauvre, que celui qui est aisé, que celui qui est riche, que celui qui est très riche, paye 2 fois, 10 fois, 100 fois, 1000 fois les 100 francs qui, fournis par chacun des 30 millions de Français, forment la somme des 3 milliards. Alors que l'on ne me fasse pas ici de chicane de centimes, ce calcul n'a pas besoin d'être absolument rigoureux pour établir la vérité que je veux prouver. C'est-à-dire que si l'État reçoit 3 milliards, les contribuables versent beaucoup davantage, peut-être le double, surtout si nous ajoutons à ces droits qui frappent tous sans exception, et beaucoup de choses plusieurs fois et sous des noms variés, si nous ajoutons les abus du commerce, qui, non content de bénéficier sur la chose vendue, bénéficie aussi sur l'impôt, en vendant 10 centimes par exemple la boîte d'allumettes, vendue autrefois 5 centimes, et frappée de 2 centimes de droits par le fisc. Beaucoup de marchands bénéficient encore par la fraude sur la quantité, sur la qualité, et spéculent sur le crédit. Il est donc parfaitement évident que les contribuables donnent beaucoup plus d'argent que l'État n'en reçoit. Et pourquoi? Je vais vous le faire comprendre par une image bien simple. Il y a quelques instants, j'arrosais un carré de mon jardin. Mon matelot allait puiser l'eau dans des arrosoirs à une grande mare entourée d'un bois de laurier rose et me les apportait. Le carré que j'avais à arroser était assez éloigné de cette mare. Je ne tardais pas à remarquer que les arrosoirs remplis à la mare ne m'arrivaient qu'à moitié pleins. Puis je vis par le chemin qu'ils avaient à parcourir qu'ils se trouvaient uniquement arrosés. Je regardais les arrosoirs. Ils étaient dessoudés et percés. Il s'est échappé une partie de l'eau. Et j'en allais prendre d'autres. C'est l'histoire des impôts. Des impôts dont une partie reste en route dans le chemin qu'ils ont à faire, depuis la bourse rendue flasque des contribuables jusque au coffre de l'État. C'est, comme le dit Plaute, que on porte la pluie dans un crible, imbrem in cribrum. C'est déjà un assez grand trou à l'arrosoir et au crible que celui par lequel s'échappent les 246 398 449 francs que coûtent les frais de perception. Et pourquoi la perception des impôts coûte-t-elle 246 388 449 francs? Parce que, à cause de leur nombre, de leur variété infinie, le ministère des Finances y occupe 76 000 employés. Parce qu'il faut que ces 76 000 employés soient logés, nourris, vêtus, etc., etc., payés, parce que les droits exorbitants mis sur certains objets excitent à la fraude devenue aussi très productive et qu'il faut une armée de douaniers pour empêcher une petite partie de cette fraude. Parce que l'argent qui passe par tant de mains risque fort de subir la destinée d'une pièce de vin qui traverse la France, remis successivement aux soins de 10 voituriers qui se la transmettent de l'un à l'autre, chacun ayant plus ou moins piqué pendant la part du chemin qu'il avait à faire, c'est-à-dire lui ayant emprunté de quoi satisfaire sa soif sur des routes poudreuses. Supposez même que sur 76 000 employés, il ne s'en trouve pas un seul capable de rien détourner. Repousse, si vous voulez, avec indignation toute idée de pillage. Vous ne pourrez du moins nier ce qu'on appelle le coulage. Faire transporter à travers une longue étendue de pays par 100 personnes échelonnées sur la route 10 kilogrammes de miel, que chacun arrivé au terme de son étape, de son relais, vide son pot dans le pot de son successeur qui doit continuer la route, pour quelque peu que la route soit longue et qu'il ne soit resté aux parois de chaque pot que ce qu'il était impossible d'en ôter. Vous me direz ce qui vous arrivera au terme du voyage de vos 10 kilogrammes de miel. Longtemps avant moi, on a proposé de remplacer ces impôts, ces droits si chèrement, si puèrement, si arbitrairement multipliés et variés, par un impôt unique sur le revenu. On a répondu à cette proposition par des cris de terreur et d'angoisse. Premièrement, parce qu'on n'a pas compris, on a l'habitude d'appeler en France revenu les rentes des capitalistes, le produit que tirent les gens nés ou devenus riches des terres, des maisons, des actions, etc. Ceux-là ont cru que l'impôt ne frapperait qu'eux seuls, ce qui serait en effet une injustice presque aussi monstrueuse que celle en sens contraire qui, en réalité, aujourd'hui, ne soumet à l'impôt ni la rente ni les opérations de bourse. Deuxièmement, parce que le Français, qui crie volontiers à la réforme pour taquiner le pouvoir, a au fond très peur de tout progrès et de toute nouveauté. Les uns par une terreur vague et non raisonnée, les autres parce que les abus que le progrès détruirait sont tous le patrimoine d'un assez grand nombre de gens. On n'a pas assez expliqué au public que par revenu, on doit entendre le produit des rentes, des propriétés, mais aussi de tout commerce, de tout travail, et que si le revenu de A se compose des rentes de ses terres, des dividendes de ses actions, etc., le revenu de B se compose du prix de ses journées de travail, en piochant, en labourant, en fendant du bois. Ceux qui ont compris, et ceux qui l'ont pu feindre de ne pas comprendre, ont objecté la difficulté de l'évaluation, le choquant, le blessant des investigations, la facilité de certaines dissimulations, etc., etc. On leur a répondu qu'on se contenterait d'à peu près et de l'établissement de catégories, comme on fait pour les patentes en exemple. Quant aux dissimulations, croyez-vous qu'il ne s'en fait pas sur le chiffre des ventes et des achats, sur la réalité des locations? Comptez-vous pour rien la fraude surexcitée sur cette multitude d'objets imposés? Et pensez-vous que les recherches sur le revenu seront jamais aussi choquantes que les perquisitions faites parfois par la douane jusque sous la chemise des femmes? J'avais d'ailleurs trouvé, et j'en avais été très heureux, une formule qui faisait de la fixation et de la perception des impôts la chose la plus simple du monde. La Chambre des députés, chaque année, déciderait que, vu les besoins de l'État, chaque habitant de la France contribuerait au revenu public pour une quantité de journées égale pour tous, journées de revenus, de gains ou de travail. Ainsi, supposons que l'on fixe pour une année ou pour une série d'années la quote-part de chacun 25 journées, par exemple. Bien, l'ouvrier qui gagne 3 francs par jour paiera 75 francs. Le négociant ou le marchand qui gagne 25 000 francs par an aura à payer 25 fois 60 et quelques frais. De même, le rentier, le propriétaire, 25 journées de son revenu. Tout d'abord, cet impôt unique, supprimant une grande partie de l'armée de 76 000 hommes du ministère des Finances, supprimant l'autre armée de la douane, ce n'est pas beaucoup d'en conclure que sur les 246 millions, 398 449 francs, on épargnerait au moins 150 millions pour commencer. La fraude n'aurait plus aucune raison de s'exercer. Les nécessités de l'existence, la vie, seraient à bas prix. Les charges de l'État seraient supportées équitablement pour tous. Je dis équitablement et non également. Car pour que la répartition soit équitable, il faut qu'elle ne soit pas égale. Tous ne peuvent pas donner la même somme, mais tous peuvent donner le même nombre de jours de leurs revenus, rentes, bénéfices ou travail. C'est simple, c'est juste. Ça ne se fait pas. Oh, ça ne se fera peut-être jamais. Parce que, je le répète, les abus sur le patrimoine d'un trop grand nombre de gens qui les défendent avec désespoir. On continuera le système des impôts directs et indirects. Système aussi raisonnable que serait celui qui consisterait à conduire l'eau d'une source à une fontaine, non par un aqueduc direct maçonné et cimenté, mais par une quantité de petits ruisseaux, ruisselets, rigoles, serpentant et faisant méandre à travers des plaines sablonneuses et altérées. Je voudrais bien savoir ce que signifie ce qu'on appelle le droit de telle ou telle famille, de telle ou telle personne de gouverner la France. La France est-elle un fief, une terre, une maison, un chapeau dont quelqu'un est le propriétaire, pouvant user et abuser, pouvant vendre, céder, morceler à sa fantaisie? Un roi n'est-il pas un mandataire, un fonctionnaire, accepté ou choisi par la nation, payé par elle? Mais il paraît que ce n'est plus comme cela qu'on entend. On dit les d'Orléans renoncent à leurs droits et reconnaissent les droits de Henri V. Mais Napoléon IV maintient ses droits. Nous avons donc été des insurgés, des usurpateurs, des simoniaques, car il s'agit du droit divin, des filous, tout le temps qu'ils ont dû s'absenter. Ah, ce qu'il y a de plus plaisant, c'est que les partisans de ces divers candidats finissent par dire, comme cet avocat des plaideurs, on force le cellier qui nous sert de refuge. Ou comme cet avocat contemporain qui, plaidant pour la femme dans un procès en séparation, s'écrie « Aujourd'hui, on nous accuse, mais hier, j'ai les lettres, on baisait notre bec rose. » Et ils arrivent à dire « nos droits ». En voici un exemple curieux que le hasard, qui est gai, heureusement, s'est amusé à amener. C'est dans un journal bonapartiste, Le Pays, du 13 septembre. Il attaque avec une mauvaise humeur qui n'exclut pas la verve, au contraire, les prétentions des légitimistes. Ils ont, dit-il, les mains pleines de leur parchemin, de ce qu'ils appellent leurs droits. Et ils se moquent avec raison de ces prétendus droits. Mais le hasard s'est, dis-je, amusé à faire que, précisément, sur la même ligne que ces mots imprimés en italique pour souligner le sarcasme, leurs droits, dans la colonne à côté, mais précisément, faisant suite, si on continue la ligne, on lit « nos droits », mots qui, cette fois, ne sont pas soulignés, mots que l'auteur de l'article avait écrit 60 lignes plus haut, à un ou deux feuilles de distance, mais que le hasard a rapproché ainsi. Il faut que ces royalistes aient perdu le sens commun pour s'imaginer que nous allons fouler aux pieds nos droits. Première colonne au bas de la page. Ils ont les mains pleines de leur parchemin de ce qu'ils appellent leurs droits. Deuxième colonne également au bas de la page. Peut-être est-ce rendre un service en ce moment à messieurs les monseigneurs, les archevêques et évêques, de leur rappeler qu'en écrivant trop souvent dans les journaux, comme ils font depuis quelque temps, ils compromettent singulièrement leurs chances de béatification et de canonisation. Il existe du pape Benoît XIV, sur les béatifications et canonisations, un ouvrage célèbre et curieux où il est parfaitement expliqué que c'est un grand obstacle que d'avoir écrit pour un cardinal à la sainteté. On examine jusqu'aux moindres opuscules, on fait une censure exacte et rigoureuse. Dans le doute, le promoteur de la foi prend le parti le plus rigide. Un système suspect pour sa nouveauté, un écrit sur des questions frivoles, un sentiment qui choque celui des saints-pères et du commun des chrétiens, etc. Ce sont des tâches ineffaçables pour lesquelles on impose un éternel silence à la cause de béatification ou canonisation proposée. Il a été fait quelque bruit du mandement de Mgr Guibert, archevêque de Paris. Non, jamais monarque n'a été traité, fût-ce par un membre de la commune, comme le roi vicomte Emmanuel est traité par maître Mgr Guibert, à tel point que dans une séance de la commission de permanence, un député a interpellé le ministre des Affaires étrangères à ce sujet. Monsieur de Breuil a répondu que les évêques sont libres dans leur mandement. Monsieur de Breuil me paraît se tromper singulièrement dans son appréciation. Quand un évêque fait imprimer et publier des écrits, il doit être soumis au droit commun et aux lois qui régissent la presse. Je ne pense pas qu'on permette à aucun écrivain, à aucun journaliste, de parler d'un roi allié de la France, comme Mgr Guibert parle du roi d'Italie. Mgr Guibert, qui n'est pas forcé d'écrire, et qui semble forcé de montrer de la modération et de la charité, n'a aucun titre pour faire par la voix de la presse ce qui serait interdit à un autre. En outre, ce mandement contient une provocation à la haine et à la guerre, à peine voilée par la phraséologie tortueuse et alambiquée et édulcorée des écrits de ce genre. L'envahissement de Rome a été la violation la plus audacieuse des conditions de la vie du monde chrétien. C'est un attentat au premier chef contre la religion et contre la société. Comment le temps, qui guérit tant de maux, pourrait-il adoucir une douleur chaque jour renouvelée, à mesure que se déroulent une à une, dans toutes les portions de l'univers chrétien, les fatales conséquences de l'attentat consommé au centre de la catholicité? Est-ce quand le gouvernement spirituel est à la merci de puissances ennemies, quand la parole du souverain pontife ne peut franchir les murs de sa prison sans rencontrer l'outrage et la contradiction? Pour les fautes des individus, le châtiment providentiel peut être différé jusqu'à la vie future, mais les nations, dont l'existence est circonscrite dans les limites de ce monde, ne sauraient recueillir dans une prospérité durable le fruit des crimes dont l'histoire les accusera d'avoir été les auteurs ou les complices. Nous ne pouvons croire que les puissances européennes s'aveuglent obstinément et restent toujours indifférentes devant une situation qui blesse profondément les sentiments et la conscience d'une portion si notable de leurs sujets. Un jour viendra où elles sentiront l'inévitable nécessité de réparer un désordre qu'elles avaient le devoir et la facilité de prévenir. Comment admettre, en effet, que la paix puisse être conservée parmi les peuples avec un régime qui, remontant violemment le cours des âges, nous ramène au règne brutal de la force, efface d'un trait de longs siècles de civilisation chrétienne, refuse à l'Église sa place dans le concert des sociétés qu'elle a formées et la met hors la loi au milieu d'un monde qui vit de ses bienfaits? Comment le calme des esprits et la stabilité des institutions pourrait-il s'allier avec un état de choses qui constitue pour 200 millions de catholiques, c'est-à-dire pour l'élite de l'humanité civilisée, un grief perpétuel qui a ses racines dans la conscience même, quand, entre ceux qui gardent le pape captif et ceux qui voudraient tenir captive la parole des évêques, l'alliance devient de plus en plus étroite? Est-ce alors que les catholiques pourraient déposer leur juste ressentiment contre l'invasion sacrilège de Rome? Ceux qui auront sacrifié l'Église à leur ambition seront sacrifiés à leur tour. Une terre qui dévorera ceux qui persisteront à l'occuper par la violence et l'injuste. Le bras de Dieu, qui n'est pas raccourci, saura rassembler les pierres dispersées de l'édifice et le rétablir sur les débris de l'œuvre des hommes. Alors, son pontife et son roi, ayant recouvré sa liberté, du haut du balcon de Saint-Pierre, bénira encore la ville et le monde. Rien au monde ne me choque autant que l'inégalité devant la loi et devant la justice. Messieurs les évêques veulent se faire journalistes, malgré l'avertissement que leur a donné le pape Benoît XIV des obstacles que la plume met à leur salut. Ils doivent subir toutes les chances attachées au métier qu'ils exercent volontairement. Pourquoi le gouvernement, qui suspend les journaux, ne suspend-il pas les évêques journalistes, quand leurs écrits sont un danger pour la paix? Pourquoi le gouvernement se contente-t-il de regretter ses écrits? Au moins, devrait-il mentionner l'intensité et la durée de ses regrets, comme on dit pour les deuils de cour? Le gouvernement regrettera pendant 8 jours, pendant 15 jours, le dernier mandement de M. l'archevêque Guibert. Les bijoux des femmes, colliers, bracelets, bagues, etc., ont tous la forme d'un anneau et sont en réalité les anneaux d'une chaîne dont le bout est dans la main du diable. Réunissez toutes les légendes, tous les mystères, toutes les fables, toutes les religions. Ajoutez-y les contes de fées, eh bien, il sera beaucoup moins bête de croire à tout cela que de croire qu'il n'y a pas de Dieu. Il se présente en ce moment une circonstance qui doit chagriner M. Thiers, parce que l'accusation dont il est l'objet de la part d'un journal, aujourd'hui le plus lu de tous, viendrait gâter et tacher, pour ainsi dire, la plus belle page de sa vie. On sait que sa maison de la place Saint-Georges a été pillée et démolie par les brigands de la commune, et que l'Assemblée des représentants de la France, par une décision très glorieuse pour M. Thiers, a prononcé que cette maison serait rebâtie aux frais de l'État. La somme nécessaire pour cette reconstitution a été fixée par des experts à 1 053 000 francs. On ne connaît qu'un précédent dans l'histoire. C'est lorsque, l'an de Rome 697, le Sénat romain ordonna que les maisons de Cicéron, pillées et démolies par des communards de ce temps-là, sous la conduite de Claudius, seraient relevées et reconstruites aux frais de la République. M. Thiers a touché l'argent, a attendu assez longtemps avant de mettre les ouvriers à la besogne. Cette besogne est aujourd'hui terminée et bientôt M. Thiers va rentrer chez lui, non hélas pour s'y livrer à ses chères études, mais pour y recevoir en conciliabule ce qu'il a combattu toute sa vie, dont il a fait fusiller les pères en 1832 et 1834, dont il a fait fusiller et déporter les frères en 1871, les amis de ceux qui ont démoli cette maison, et dont quelques-uns ont mis la main à la besogne, ceux qui ont refusé de répudier leur solidarité avec les assassins, les voleurs et les incendiaires de la commune, et dont aujourd'hui il est l'allié, dont il se croit le chef et qu'il compte jouer plus tard, tandis que ne voit en lui, comme ils l'ont avoué, qu'un cheval de renfort pour gravir jusqu'au sommet du Capitole, où il lui prépare le sort que les Sabins firent subir à Tarpeia qui les avait introduits dans la citadelle et qu'ils écrasèrent sous le poids de leurs boucliers. Or, le journal dont je parlais tout à l'heure a publié avec de minutieux détails et des chiffres auxquels on ne peut refuser au moins une grande vraisemblance, un article prétendant établir que M. Thiers, à la suite d'agiotage sur l'argent reçu, de trafic de terrain avec les entrepreneurs, de délais qui ont permis aux millions de produire des intérêts, pourrait, sa maison reconstruite, mettre dans sa poche le million qui se trouvait ainsi avoir gagné sur sa maison. Un ami de M. Thiers a fait, dans un autre journal, une réponse qui a le malheur de ne réfuter que mollement l'attaque et d'avouer même une partie des faits avancés, à savoir les trafics de terrain. Nul doute que M. Thiers ne prenne la parole lui-même et que, continuant l'orateur romain, il ne fasse une réponse triomphante en pendant au célèbre discours pour sa maison, pro domo sua, que prononça Cicéron. Il est permis de s'étonner d'une chose. M. Thiers, qui a dû concevoir un légitime orgueil de la décision de l'Assemblée nationale, qui le traitait comme le Sénat de la République romaine avait traité Cicéron, n'a pas manqué de relire alors dans l'histoire les détails de ce précédent si glorieux pour lui. Et lorsque les députés français suivaient l'exemple des sénateurs romains, d'étudier et de suivre lui-même l'exemple de Cicéron, l'oubli de ce soin est ce qui amène le chagrin qu'on lui fait aujourd'hui. Tout le monde semble d'accord sur un point, c'est que la somme évaluée pour la maison de M. Thiers dépassait la valeur de la construction détruite et permettait non pas de la rétablir identiquement telle qu'elle était, mais d'en construire une autre plus grande et plus belle, ce qui est beaucoup moins bien, car le mieux eût été de n'y ajouter qu'une plaque de marbre commémorative et du crime et de la réparation. Voyons donc ce qui se passa au sujet, non pas de la maison, mais des trois maisons de Cicéron, détruites par Claudius et les émeutiers. La destruction des maisons de Cicéron avait été plus complète encore que la destruction de la maison de M. Thiers. Ses ennemis arrachèrent jusqu'aux arbres qu'ils plantèrent dans leur propre jardin. Il laissa le Sénat, les experts, déterminer, sans son intervention, Et c'est seulement à son ami le plus intime, Atticus, qu'il confia que les sommes allouées étaient mesquines et au-dessous de la valeur réelle des propriétés démolies, illibéralitaires. Cette estimation fit murmurer non seulement les honnêtes gens, mais aussi le peuple. « D'où vient cela ?» dit Cicéron Atticus. « Cela vient d'une certaine pudeur de ma part. J'aurais pu, dit-on, refuser la somme comme insuffisante et demander résolument davantage. Les consuls ont traité avec les entrepreneurs, consules locarunt, et plus loin, ont reconstruit d'après le marché passé par les consuls, consulum ex locatione reficebantur. » Et à ce moment, Cicéron était fort ruiné et fort dépourvu d'argent. « J'ai épuisé, dit-il, la bourse de mes amis, amicorum benignitas exhausta est. Ce qui compte, mon étonnement dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'un lettré comme M. Thiers, après avoir naturellement relu avec un orgueil bien légitime, je le répète, les rapports, les similitudes que les événements et la faveur de ses concitoyens mettaient entre lui et un des plus grandes figures de l'Antiquité, n'ait pas cherché et trouvé dans cette lecture les moyens d'augmenter encore la ressemblance des situations, n'ait pas demandé que les consuls, les députés, fissent eux-mêmes les conventions et les marchés avec les entrepreneurs, se tenant entièrement à l'écart de la question d'argent. Il aurait évité le reproche que tenteront de lui faire ses ennemis d'avoir tiré un bénéfice matériel d'une situation à laquelle c'était seulement de la gloire qu'il y avait à demander, reproche auquel il va sans doute répondre victorieusement, ne pouvant souffrir que l'histoire, au lieu milieu d'une similitude, ait à enregistrer une parodie. On oserait vraiment compter ceux pour lesquels nos désastres ont été un bonheur, et qui ne voudraient pour rien au monde que ça ne fût pas arrivé. Prenez-vous-même, lecteur, le soin d'interroger un à un les hommes d'aujourd'hui en vue. Moi, je n'en ai pas le courage. Monsieur Thiers n'est jamais descendu du pouvoir, il en a toujours été précipité, et jamais n'y est resté longtemps, parce qu'il n'a ni principe ni conviction. Le pouvoir n'est pas pour lui un moyen d'appliquer telle ou telle idée. Loin de là, le pouvoir est le but, et au besoin, il sacrifiera ses idées pour y grimper ou s'y maintenir. Jamais on ne l'a vu lorsqu'il n'est pas ministre mettre honnêtement et loyalement ses talents et ses aptitudes, qui sont d'une puissance au service du gouvernement et du pays. Il a lui-même appelé la situation, en ce cas, être sur le pavé. Il n'a plus de devoir, il n'a plus de rôle, si ce n'est d'escalader de nouveau le pouvoir par tous les moyens. Quand il est au pouvoir, dans certaines circonstances, il y rend des services, lorsque ses services peuvent consolider sa situation, mais souvent les périls contre lesquels il nous défend, c'est lui qui les a créés. À force de pousser le gouvernement de Juillet sur des pentes et au bord du précipice, jeu qu'il jouait, sinon de concert, du moins simultanément avec M. Guizot, il est venu un jour, il n'a pu l'empêcher d'y tomber. Sans ses intrigues en 1848, une république modérée, sous la présidence de Cavaignac, qui avait fait ses preuves et donné de terribles gages, aurait alors été instituée et nous aurions évité l'Empire et la Commune. Son but aujourd'hui est de rendre la fausse république de messieurs Pillat, Naquet, Grousset, Gambetta, Ferrand, Gaillard, Père, etc., tellement imminente qu'on ait recours à lui pour la couper en deux, c'est-à-dire pour former d'une partie du centre droit, du centre gauche et des moins compromis de la gauche, un parti, une majorité, qui puisse lutter contre l'extrême gauche. Il est nullement certain, le cas échéant, qu'il réussisse, parce que le parti de messieurs Cluseret, Lacour, Gambetta, Pillat, se sert de lui comme il se sert d'eux. M. de Pelletan l'a dit, il n'est pour eux qu'un cheval de renfort. La politique, le jeu de M. Thiers, c'est le jeu de ce chirurgien qui poignardait le soir dans son quartier des passants, qu'on lui apportait ensuite naturellement à penser chez lui où il était hâté de rentrer. C'est ce que faisaient certains sauveteurs qui jetaient des gens à l'eau, puis en les en tiraient et réclamaient la récompense. Monsieur Thiers désigne aux gamins les maisons dont il faut casser les vitres. Il leur indique l'état où l'on peut prendre des pierres. Puis ensuite, il passe devant ces mêmes maisons en criant « V'là le vitrier !»« Mais c'est odieux, disait-on à un homme. Vous avez des querelles avec vos amis, des procès avec vos parents. » « Et avec qui voulez-vous que j'ai des querelles et des procès ?» répondit-il. « Les autres, je ne les connais pas, ou je n'ai pas d'intérêt à démêler avec eux. »